affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Une fois n'est pas coutume, notre émission de ce jour est marquée par l'actualité. Elle est en effet consacrée à la séance solennelle de remise des grands prix des fondations de l'Institut de France qui se déroule chaque année, comme vous le savez, sous la coupole lors des premières semaines de juin. Afin d'évoquer ces prix 2014, nous avons l'honneur de recevoir dans nos studios M. Gabriel de Breuil, membre de l'Académie française, de l'Académie des sciences morales et politiques et bien sûr chancelier de l'Institut de France. Monsieur le chancelier, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'honneur de rejoindre notre antenne. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir car votre présence va nous permettre d'aller au-delà de cette actualité immédiate, d'aller plus loin en évoquant le rôle et l'engagement de l'Institut de France en matière de fondation et de philanthropie. Cela nous a paru particulièrement nécessaire car si chacun sait que l'Institut chapeaute les 5 académies qui le constituent en quelque sorte, une partie du grand public ignore encore trop souvent son rôle en matière de mécénat et de philanthropie, un rôle à la fois ancien et toujours vif, puisque si je ne me trompe pas, cette année encore, deux fondations créées en 2013 ont décidé de rejoindre l'Institut. Au cours de cette émission, nous évoquerons donc l'actualité, les Grands Prix 2014, mais en les inscrivant dans une action de plus longue haleine, et c'est bien naturel, car telle est bien la vocation des fondations, mais aussi celle de l'Institut, inscrire la pensée et l'action dans la durée. Monsieur le chancelier, pouvez-vous d'abord, pour commencer, éclairer nos auditeurs sur le déroulement de cette journée de demain? Que va-t-il se passer sous la coupole de l'Institut?
C'est une séance solennelle qui a pris place parmi d'autres séances solennelles qui sont de tradition depuis presque toujours. Celle-là en est à peu près son 10e anniversaire, peut-être un petit peu plus, et elle se situe au mois de juin. Elle est destinée à décerner les grands prix des fondations, mais en même temps à s'arrêter un instant sur l'action de l'ensemble des fondations abritées à l'Institut de France. Disons la mission philanthropique de l'Institut, mettre l'accent sur la mission philanthropique de l'Institut. Alors, cette séance se déroule comme, c'est une cérémonie, et selon l'habitude des cérémonies, c'est-à-dire que à 15h, l'ensemble des assistants académiciens à cette cérémonie, ça n'est pas une académie tout entière, ce n'est pas tous les académiciens, c'est ceux qui participent au Grand Prix des fondations, vont descendre sous la coupole, un grand nombre, je l'espère, en habit, et rejoindre le public qui est là, mécènes, fondateurs, lauréats, bien entendu, ils sont tous là, et en même temps ceux qui participent à cette activité philanthropique de l'Institut de France. La séance contient un certain nombre de prises de parole. Elle est présidée par le président de l'Académie des sciences qui, cette année, préside l'Institut de France. Chaque académie à tour de rôle préside l'Institut de France. Donc c'est le président de l'Académie des sciences, M. Philippe Taquet. Et puis après, le chancelier de l'Institut fait une intervention. Et chaque année, je crois avoir traité un certain nombre de thèmes relatifs au mécénat, à la philanthropie exercée par les fondations de l'Institut. Cette année, je voudrais mettre l'accent sur l'engagement de l'Institut de France dans ce domaine. D'où vient cet engagement? À quelle vocation répond-il? Et comment s'exerce-t-il? On a peu l'occasion de se réfléchir sur ces questions.
Voici d'excellentes questions, et c'est pour ce quoi je me permets de vous les poser. D'où vient cet engagement de l'Institut en faveur de la philanthropie du mécénat? C'est une histoire ancienne ou récente?
C'est une histoire ancienne qui se renouvelle, et donc c'est la force des choses qui réussissent, n'est-ce pas? C'est de durer, mais en même temps de se renouveler, de retrouver de nouvelles raisons d'être. De fondation, les corps académiques recevaient une mission de philanthropie, de manière très générale, d'action généreuse. C'était en quelque sorte la contrepartie des privilèges qui étaient accordés aux académies. Mais je parle du XVIIe siècle.
Oui, les droits allaient avec des devoirs.
Voilà. Les devoirs, c'était que les grands esprits réunis au sein des académies veuillent bien se pencher sur les problèmes de la société et du fonctionnement de la société de son époque. Et donc c'est une mission qui a été constamment accomplie, très soigneusement d'ailleurs, par chacune des académies, et elles ont été supprimées sous la Révolution. Alors, un institut a été créé, l'Institut de France, l'Institut National, il s'appelait à l'époque, et il a recueilli la même fonction que lui ont confiée les conventionnels. Spontanément, les conventionnels ont inscrit dans les missions de l'Institut de France la philanthropie. Ils l'avaient formulé avec un peu d'emphase, n'est-ce pas ? Je le cite parce que la mission du jeune institut, raccorder toutes les branches de l'instruction et leur imprimer la seule unité qui ne contriste pas le génie et qui n'en ralentisse pas l'essor. Vous voyez comment c'est.
C'était le style de l'époque.
C'est assez joli, non ? Ça, c'est la mission intellectuelle. Et, ajoutait le premier statut, des récompenses seront également décernées aux inventions et découvertes utiles, au succès distingué dans les arts, aux belles actions et à la pratique constante des vertus domestiques et sociales. Voilà la mission de la philanthropie. Donc, dès la fondation de l'Institut, cette mission est inscrite. Alors, elle a été appliquée, cultivée, enrichie tout au long du XIXe siècle et elle a connu un nouvel essor, grand et nouvel essor à la fin du XXe siècle. Et c'est un mouvement dans lequel nous sommes maintenant, qui est, un accent mis sur cette partie de nos missions, des missions de chacune des académies et de l'Institut. Pourquoi ?
Oui, comment s'explique ce nouvel essor ?
Alors ça s'explique très simplement. C'est, d'une part, ces missions se situent dans le prolongement des missions réelles concrète et précise, disons scientifique, de chacune des académies et de l'Institut dans son ensemble. N'oublions pas que les académies sont des corps académiques un peu intellectuels et abstraits qui n'ont pas de moyens d'application, de recherche, ce qui n'a pas été toujours le cas. L'Institut a été fondé sous la Révolution avec la mission de diriger tout l'enseignement en France. Les lycées, les universités étaient dirigées par des sortes de commissions qui dépendaient de l'Institut de France. Ça a été abandonné très vite et l'État a repris la responsabilité de l'éducation. Donc les académies classiques en France n'ont pas de laboratoire, n'ont pas de moyens de recherche elles-mêmes, elles ne recherchent pas en matière scientifique, elles n'ont pas de services ni d'administration, ce sont des corps pensants. Mais il est tout de même bon, de temps en temps, de prolonger cette action en lui donnant des missions d'intervention directe dans le domaine scientifique, de recherche, et aussi culturel, artistique, de création, et donc philanthropique. C'est la mission des fondations abritées. Elles fournissent par exemple, les membres de l'Académie des sciences, l'obligation, la mission d'être présent dans toutes les travaux, les recherches, les découvertes, et de sélectionner les meilleurs, de décerner des récompenses. C'était déjà à l'origine dans la mission, n'est-ce pas ? Remettre des prix, des récompenses. Et remettre des prix, maintenant, ce n'est pas simplement avoir une couronne de laurier, la remettre à un lauréat, non, c'est savoir, connaître, c'est rechercher, sélectionner, prospecter, d'abord savoir dans quel champ on fait définir le champ d'un prix, c'est-à-dire une discipline plutôt qu'une autre. C'est devenu une opération scientifique extrêmement importante. Et en plus, après, c'est toute la procédure, jusqu'à finalement décerner un prix très important, quelquefois, aux meilleurs lauréats qui ont démontré leur valeur, aussi bien en France qu'à l'étranger. Beaucoup de nos prix ont une envergure internationale. Quand je dis des prix très importants, les prix les plus importants sont de 500 000 euros. Et il y en a plusieurs de cette importance-là.
Et donc, il s'agit de donner des moyens réels d'accomplir des...
Ce sont des moyens réels, n'est-ce pas ? Ce sont pas, c'est pas une couronne, c'est pas une médaille. C'est,
oui, c'est ce n'est pas simplement honorifique, même si ça l'est aussi.
Non, non, c'est le moyen d'intervenir. Et ces 500 000 euros ne sont pas décernés comme ça, ils sont décernés sur un projet qui a été sélectionné, qui a été évalué et qui sera suivi. Donc c'est une vraie action scientifique.
Oui, un moyen pour les académies, de ne plus être seulement des corps pensants, mais voilà. Également acteurs.
Acteurs, voilà. Alors, en plus, il y a évidemment les actions dans le domaine de la création, qui ont un autre caractère, mais finalement, c'est le même. Et dans le domaine littéraire, et alors, il y a dans le domaine philanthropique, c'est un caractère un peu particulier, c'est que, fort de cette démarche, qui est celle des académiciens, c'est-à-dire de se déterminer en toute indépendance, mais en même temps avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de capacité de réflexion et d'information, eh bien, de sélectionner et de récompenser aussi des projets sociaux, des projets humanitaires, des projets qui s'attaquent à d'autres sortes de questions, des questions de dignité de la personne, de recherche médicale, de combler les lacunes de notre système de protection sociale. Dieu sait qu'il est l'un des plus développés du monde, mais il a encore des lacunes, malheureusement. Et d'encourager l'innovation, c'est très important, n'est-ce pas ? L'État ne peut pas tout faire. En particulier, l'État n'est pas tellement bien placé pour rechercher les nouvelles formules, inventer, innover. Et au contraire, les jurys réunis au sein des fondations sont assez bien placés pour détecter les innovations intéressantes et les mettre à l'essai pendant peut-être une période provisoire, mais en tout cas leur permettre de naître. Voilà le...
Non, ce que vous dites m'inspire de réflexions qui sont aussi deux questions. Est-ce que le développement du volet philanthropique de l'action des fondations de l'Institut n'est pas lié aussi à une sorte de mouvement de repli ou de redéfinition de l'action publique, de volonté de nouer davantage de partenariats entre la sphère privée et la sphère publique, de réarticuler toutes ces... des choses qui relevaient auparavant prioritairement de l'État ?
Peut-être l'essor des fondations que nous constatons depuis une époque récente, enfin depuis moins de 10 ans, depuis, disons, 5 ans, est dû en effet à la constatation que l'État ne peut pas tout faire et qu'il a beaucoup de mal à répondre à ses missions traditionnelles, même il réduit la voilure dans bien des cas. Et ça crée des dommages sur le terrain, n'est-ce pas ? Des dommages évidents que nous constatons, qui nous sont signalés. Mais en même temps, il y a de nouveaux besoins qui apparaissent et qui doivent être au moins examinés, mis en lumière. Et donc, en effet, l'intervention de la philanthropie par les fondations abritées à l'Institut de France répond à ce mouvement. L'essor que nous constatons est dû en effet à une rétractation. Qui n'est celle de l'État aussi, mais peut-être d'autres mouvements sociaux qui sont peut-être les collectivités locales, d'autres formes de, on appelait ça la bienfaisance autrefois ou la charité, mais qui se replient aussi parce qu'elle était d'origine privée et qu'il y a moins de moyens consacrés à cela. Et donc, il y a un mouvement de reconfiguration dans lequel la formule assez souple et assez efficace qui est réalisée au sein de l'Institut de France trouve un nouveau terrain, un champ d'action.
J'ai eu l'impression, en vous écoutant également, que le champ d'intervention initial était plutôt celui de récompenser l'excellence et que la philanthropie est revenue dans un second temps pour des raisons de confiance. C'est-à-dire que les méthodes éprouvées, utilisées pour décerner des prix à des personnes menant des actions d'excellence seraient déclinées sur un autre terrain que celui de la philanthropie. Le mot-clé, c'est bien celui de confiance.
Oui, c'est celui de confiance. Mais alors, il faut voir que les deux se conjuguent entièrement parce que les fondations abritées de l'Institut de France, ce sont autant d'aventures individuelles qui répondent à une volonté des fondateurs. Et les fondateurs, eux, dans leur intention fondatrice, ils mélangent les deux. Ils sont sensibles au prestige de participer à la sélection de l'excellence, à couronner des œuvres, mais ils sont peut-être plus sensibles encore à la possibilité de corriger ce que l'évolution de la société a de dur, de pénible, pour des parties de plus importantes de la population, de plus en plus importantes de la population. Donc, cette double intention, elle est dans les intentions des fondateurs.
Elle est constitutive.
Elle est constitutive. Et alors, on s'aperçoit qu'il y a certaines fondations, là, il y a une grande variété de fondations. Certaines fondations sont des fondations spécialisées dans un certain domaine. Certaines fondations ont une vocation purement littéraire. Par exemple, leur seul but est de décerner un prix. Mais un prix de 40 000 euros, ce qui n'est pas rien. Les écrivains n'ont pas l'habitude de recevoir un prix de 40 000 euros. Ça n'existe pas. Les prix littéraires, c'est jamais ça. Le prix Goncourt, ce n'est rien. Enfin, c'est très peu de choses. Et le Grand Prix du roman de l'Académie française est relativement bien noté. Mais à côté de cela, nous avons des prix littéraires qui sont de cette importance-là. Voilà, c'est une manière de... ça répond à la volonté du fondateur de se consacrer à cela, de consacrer une part de son patrimoine, peut-être de rechercher aussi le prestige qui rejaillit sur le fondateur.
C'est pas
impossible. Bon. Alors, d'autres fondations sont purement scientifiques. La recherche, encourager la recherche. Là, on voit très bien le ressort, n'est-ce pas ? Et là, c'est illimité. Et d'ailleurs, c'est un grand succès, à chaque fois. Et évidemment, c'est plutôt l'Académie des sciences qui est l'acteur principal. Dans d'autres domaines, la volonté fondatrice est un tout, c'est un univers en soi. Et le fondateur a conçu que sa fondation serait de plein exercice et qu'elle exercerait toutes les missions. Et c'est les grandes fondations sont de ce type et ont une partie recherche scientifique, médicale, une autre partie encouragement de la culture, de l'archéologie par exemple, de la musique, de la littérature, bien sûr, les beaux-arts, et une autre partie encore serait philanthropique, humanitaire, bienfaisance. Et alors ça, ce sont les grandes fondations. Donc, comme vous dites, les deux choses existent, elles ne sont pas tout à fait de la même nature, mais elles se conjuguent complètement, et elles ne peuvent pas être séparées.
Et elles se retrouvent dans la façon dont l'Institut apporte à la fois son expertise et son indépendance dans la gestion de ses fondations.
Alors, disons un mot de comment l'Institut s'applique. Applique-t-il cette nouvelle mission ? Il le fait d'abord de manière passionnée. Cette cérémonie est l'aboutissement, disons, d'une activité qui a duré une année et à laquelle participent beaucoup de bonnes volontés qui se réunissent et qui se consacrent à cela. Les bonnes volontés, ce sont celles des fondateurs, évidemment, qui suivent leur fondation lorsqu'ils sont encore présents. Et en tout cas, leur volonté est toujours respectée. Cet engagement, c'est celui des académiciens qui participent au jury, au conseil d'administration. Alors, ça n'est pas tous les académiciens, bien entendu. C'est toujours volontairement, par affinité, par choix, que les académiciens acceptent de participer à un conseil d'administration. Chaque fondation est gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'académiciens et de représentants des fondateurs et est présidé par le chancelier de l'Institut. Et donc, membres des conseils d'administration et membres des jurys, ça, c'est la valeur ajoutée des académiciens, n'est-ce pas ? Ils sont membres du jury, quelquefois seuls membres du jury, quelquefois d'ailleurs c'est une académie en son sein qui décerne le prix. C'est le cas de l'Académie française, c'est le cas de l'Académie des sciences, c'est le cas de l'Académie des sciences morales et politiques, des beaux-arts, de toutes finalement. Le prix d'archéologie est décerné par l'Académie des inscriptions et belles lettres.
Ça semble naturel.
Forcément. Donc, l'engagement des académiciens, ça représente à peu près plus d'une centaine de membres qui sont impliqués personnellement dans le fonctionnement des fondations. C'est considérable. Et c'est du temps, c'est de la valeur ajoutée intellectuelle et de générosité, d'ailleurs, en même temps. Donc, il faut... Alors, non seulement cela, mais il y a aussi une mise au point, un fonctionnement, une gestion. Donc, il y a un service des fondations, des collaborateurs qui sont très dévoués et qui assurent le contact continuellement avec les fondateurs, avec l'intention fondatrice elle-même. C'est quelquefois des individus, des particuliers, une famille, mais c'est aussi des institutions comme la Croix-Rouge ou Radio France qui ont éprouvé le besoin d'abriter une fondation à l'Institut de France, fondation de recherche. Pas pour faire de la musique, mais pour rechercher sur le lien entre musique et radio. Ou pour la Croix-Rouge, c'est sur le lien social, fondation de recherche. Et donc le lien entre l'Institut de France et ses institutions est assuré par des chargés de mission qui consacrent en permanence leur dévouement, leur talent, leur activité à faire que tout cela fonctionne bien. Et donc, il est bon de dire que tout cela se déroule dans une rigueur et un professionnalisme absolu, que les comptes sont tenus de manière parfaite, évidemment, fondation par fondation, ce qui n'est pas le cas de toutes les institutions qui abritent des fondations. Quelquefois, elles font le mélange. Elles doivent oui. Faire le mélange statutairement. N'est-ce pas ? Tandis que les fondations abritées à l'Institut de France sont chacune une personnalité qui n'est pas la personnalité juridique, mais une personnalité qui est respectée. Et ceci implique que la gestion financière est assurée de manière extrêmement professionnelle et entièrement transparente. Les fondateurs ont un compte-rendu parfait de la gestion de leurs fonds, des parties de patrimoine qu'ils ont déposées à l'Institut de France. Et croyez-moi, certains exercent un contrôle extrêmement compétent, d'ailleurs, dans ces matières, parce que bien des fondateurs sont en même temps des titulaires de patrimoine important, ou des responsables financiers, ou des gestionnaires de grandes...
Donc, oui, ça arrive rarement par hasard.
Ils sont là, voilà. Et donc, ils veillent à ce que leurs fonds soient gérés de manière professionnelle et transparente, et c'est le résultat que nous obtenons, et qui est l'explication de la fidélité et de la confiance. Vous avez mentionné le mot de confiance tout à l'heure, c'est à la base de tout. N'est-ce pas ? C'est, tout cela fonctionne de manière parfaite et se développe d'ailleurs et s'enracine grâce à une confiance perpétuellement entretenue.
Lorsque les fondateurs viennent à disparaître, les fondations perdurent. Comment cette pérennité est-elle organisée ? En quoi le fait d'être abrité à l'Institut de France est-il une garantie également ?
Alors, c'est un des arguments recherchés par les fondateurs, n'est-ce pas ? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord une démarche personnelle, un engagement. Il y a la recherche du prestige, ne cachons pas cela. Mais il y a aussi la pérennité et le respect de leur intention. Mais la pérennité est en soi un argument très important. Donc les académies et l'Institut vivent sous le signe de la pérennité. Et donc, en soi, la structure même abritante représente une garantie. Et puis alors, le souci de pérennité, ce n'est pas le cas de toutes les fondations, je me permets de dire. Il y a des fondations de flux qui sont fondées pour une période déterminée. Ça peut correspondre, n'est-ce pas ? Tel fondateur dit « Pendant 5 ans, je consacrerai telle somme d'argent chaque année, mais sans dotation, n'est-ce pas ?» Et donc, ça s'appelle des fondations de flux.
Y compris certaines abritées à l'Institut.
Comment ?
Y compris certaines fondations abritées à l'Institut.
Oui, oui. Oui, c'est une forme. D'ailleurs, si je parlais des fondations de recherche. Les fondations de recherche n'ont pas besoin d'une dotation patrimoniale immense. Pour chercher dans le domaine du lien social ou de la musique ou de humanisme, habitat et humanisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire les formes d'habitat d'essayer d'introduire des préoccupations humanistes et sociales dans les formes d'habitat dans notre civilisation d'aujourd'hui, c'est une mission. Mais ça ne consiste pas à changer la réalité sociale, ça ne consiste pas à construire des immeubles HLM, ça consiste à réfléchir. Et donc pour avoir une fondation de réflexion, il n'y a pas besoin d'une immense dotation, il faut simplement avoir un flux suffisant, ajusté aux besoins de la fondation. Et donc il y a des fondations de flux, il y en a plusieurs, et nous leur donnons un seuil minimum, généralement, c'est que l'action redistribuée chaque année ait un certain volume, évidemment, pour que cela mérite la création d'une fondation. Et alors, c'est généralement à temps déterminé. Ça peut être 5 ans, ça peut être jusqu'à l'épuisement d'une somme. C'est une autre formule, n'est-ce pas ? Je dépose un capital, il sera dépensé chaque année pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, ça sera terminé. La fondation sera éteinte. Toutes les formes, la souplesse est très grande, n'est-ce pas, dans le domaine des fondations abritées à l'Institut. C'est un des atouts.
C'est un des atouts du monde associatif par rapport au monde administratif, c'est certain. C'est la souplesse, l'agilité et la réactivité.
Oui, mais on n'est pas du tout dans le domaine administratif. C'est aussi une des forces. Et alors, voilà, tout cela constitue un bouquet, un effort qui aboutit à cette cérémonie qui a lieu sous la coupole. Et j'aimerais dire que chaque année, on est assez content, assez fier des grands prix qui sont décernés. Il me semble que cette année, c'est le cas. On peut être vraiment satisfait. Il y a un grand prix d'archéologie, j'en ai parlé plusieurs fois, mais qui est décerné à la mission au Cambodge, mission française au Cambodge, et qui a brillamment réussi. Et le prix décerné est, je crois, de 150 000 euros ou de 200 000, je ne sais plus. Il était de 200 000 peut-être. Cette mission archéologique franco-chinoise, pas du tout au Cambodge, au Xinjiang. Et la découverte de la mission française d'archéologie est tout à fait fascinante. C'est une ancienne civilisation qui remonte à plusieurs millénaires et qui est au beau milieu du désert du Turkestan. Voilà, c'est une vraie découverte, tout à fait intéressante, dont on reparlera longtemps d'ailleurs, parce que c'est un peu une découverte. J'aimerais citer le prix scientifique qui est décerné à l'astronome, le professeur François Bouchet, et qui reçoit un prix magnifique d'ailleurs, qui est un des prix les plus importants de c'est la Fondation Louis D, pour son activité, ses découvertes du satellite Planck, dont les journaux ont beaucoup parlé. C'est une mission internationale et très importante, mais dont les résultats sont connus maintenant. Et le satellite Planck a exploré les rayonnements fossiles que l'on perçoit dans le fond de l'univers et qui date pratiquement du Big Bang. Et donc, le professeur François Bouchet a découvert ou a enregistré la trace de filaments, il appelle ça, qui remontent à 13 milliards et demi d'années, c'est-à-dire pratiquement au Big Bang. C'est une découverte extraordinaire, qui demande à être confirmée encore, mais elle a été publiée. Et cette découverte a deux conséquences extrêmement importantes. Elle confirme l'existence du Big Bang, qui n'est connue jusqu'à présent que par une opération de l'esprit. Mais on s'approche. On était, je crois, à 5 ou 6 milliards d'années en arrière. On est à 13 milliards et demi. Or, le Big Bang, c'est, je crois, à 13 milliards 750 000 ou 750 millions d'années-lumière. Donc, voilà, on approche, on est tout près du Big Bang. C'est assez fascinant. Et alors, ces filaments montreraient peut-être, je m'avance très prudemment, mais enfin, ouvriraient la possibilité que le Big Bang ne soit pas un événement sorti de rien. Ce n'est pas le néant qui, tout d'un coup, passe à la matière, à l'énergie, à la lumière et à la vitesse, au temps. Non, ce serait le passage d'un état antérieur à un état postérieur. Et vous voyez la perspective qui s'ouvre ainsi. Mais soyons très prudents sur ce sujet. De toute façon, donc, le professeur François Bouchet est un remarquable astrophysicien qui est couronné sous la coupole de l'Institut, et c'est une chose remarquable. Alors je voudrais citer aussi l'écrivain André Makin, qui reçoit le Grand Prix mondial d'El Duca. Très bien, nous sommes heureux de célébrer juste en ce moment particulièrement l'écrivain russe qui a pris la nationalité, pour parler comme Camus, de la langue française pour s'exprimer, et qui a écrit un livre extrêmement émouvant, qui est sur le lieutenant Servan Schreiber. L'identité du lieutenant Servan Schreiber, le pays du lieutenant Servan Schreiber, c'est-à-dire l'identité de la France. C'est extrêmement émouvant, intéressant. Et puis alors, puisqu'on parle des prix, j'aimerais aussi mentionner le prix de un autre prix de la Fondation Louis D, qui est dans le domaine culturel, celui-là, et qui consiste à encourager la création d'un centre d'accueil pour les touristes au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est une des merveilles de la France. On l'appelle d'ailleurs la merveille dans l'histoire. On l'a appelé la merveille. Et 3,5 millions de visiteurs viennent chaque année au Mont-Saint-Michel, dont un grand nombre d'étrangers.
Et parmi c'est le monument français le plus visité, je crois.
Oui, et disons que l'accueil des touristes au Mont-Saint-Michel, c'est une aventure, c'est une découverte, c'est un chemin. Mais les responsables ont depuis très longtemps considéré que l'accueil culturel, historique et peut-être architectural, artistique et spirituel n'était pas assumé pleinement. L'arrivée au Mont-Saint-Michel, c'est plutôt l'arrivée dans la restauration, les produits locaux, etc. Et donc, on s'est aperçu qu'il existait autrefois un centre d'accueil. Et que ce centre d'accueil était situé à, je crois, 3 ou 4 kilomètres du Mont-Saint-Michel lui-même, sur la terre pleine, et que ce centre d'accueil était... les lieux, les locaux, étaient restés. C'est un prieuré magnifique du XVIe siècle, peut-être même ancien, mais le centre lui-même était bien plus ancien, il remonte au Xe siècle. C'est à Ardevon, la région de Bretagne était devenue propriétaire des lieux qui sont très beaux et qui ont été maintenus dans leur état, ils sont monuments historiques. La région s'en est défaite et a vendu les lieux à la fondation du Mont-Saint-Michel. Et la fondation du Mont-Saint-Michel, c'était des lieux qui avaient eu une utilisation rurale pendant des siècles. Et donc la structure est là. Elle est très belle, très bien, mais l'aménagement...
Et quelques investissements à faire quand même.
L'aménagement est à concevoir complètement. Et donc, une fondation abritée de l'Institut de France, la Fondation Louis D, qui décerne un des très grands prix dont j'ai cité tout à l'heure et de l'importance que j'ai cité, donc couronne cette année ce projet pour l'encourager, pour... réfléchir sur la manière de procéder, de réunir les éléments qui doivent être offerts aux touristes, les éléments de présentation de l'histoire du Mont-Saint-Michel, une bibliothèque virtuelle sur le Mont-Saint-Michel, la présentation des trésors, des anciens manuscrits qui ne sont pas visibles sur place, qui sont à Avranches, conservés dans la bibliothèque d'Avranches, etc. Enfin, le centre d'accueil, une sorte de musée de l'œuvre, c'est-à-dire que ce qui existe dans les grands musées, c'est-à-dire un centre d'accueil qui permettrait aux touristes de savoir à l'avance ce qu'ils vont découvrir. Et cette mission nous est apparue d'autant plus importante que le Mont-Saint-Michel est un centre d'attraction international et que parmi les visiteurs, des nationalités comme les Japonais ou les Chinois sont parmi les plus importantes, en particulier les Japonais. L'image du Mont-Saint-Michel, au fond, leur apparaît comme...
Le symbole de la France.
Le symbole de la France et le symbole d'un certain japonisme dans les traditions immémoriales. Parce que, en fait, le Mont-Saint-Michel est une structure géologique, d'abord, n'est-ce pas ? Et donc, c'est immémorial. Mais il y a du japonisme dans la merveille, au milieu de sa baie. Et les Japonais sont très sensibles à cela, à la fois la pérennité et la présence.
Oui, c'est réinscrire ce lieu qui est aujourd'hui heureusement et malheureusement dédié au tourisme de masse, pour le réinscrire.
Lui donner sa signification.
Voilà, redonner du sens.
Savoir ce que l'on va voir. Puisqu'on va au Mont-Saint-Michel, autant savoir ce que l'on va voir. Or, ce que l'on va voir est d'une extrême importance. Ça a toujours été considéré depuis plus de 10 siècles comme un des endroits très précieux, très importants de la France.
Oui, et même de l'humanité. Comme vous.
Et peut-être de l'humanité.
Après avoir évoqué tous ces lieux porteurs d'histoire et même avoir été plus loin vers le Big Bang, est-ce que, pour revenir aux préoccupations d'aujourd'hui et de demain, est-ce que ces prix sont comme un miroir des préoccupations de nos contemporains ? Est-ce qu'on peut essayer ou de leurs attentes quant à l'avenir ? Est-ce qu'on peut déceler des évolutions, des tendances sur les 10 ou 15 ans, mettons, depuis que la cérémonie se déroule sous la coupole ? Est-ce que vous percevez des inflexions qui pourraient être des signaux faibles, comme on dit, de tendance à venir.
Alors, n'est-ce pas, il faut préciser les choses. Les tendances du monde à venir, elles sont là, elles sont posées avec une certaine acuité dans le domaine social et de la vie, simplement, de nos contemporains. Là, nous avons une mission que nous avons très bien calibrée, qui n'est pas de transformer la réalité sociale. Ce n'est pas notre mission. Nous n'y arriverions pas, mais ce n'est pas notre mission. Mais notre mission, c'est de cristalliser, d'attirer autour de la force, disons, oui, intellectuelle et de propositions que constituent les académies et l'Institut, des bonnes volontés et des intentions généreuses, toujours en appui, d'abord dans l'intérêt général, toujours, et aussi en appui à l'action globale des pouvoirs publics dans l'intérêt général. Il n'y a jamais l'aspect d'une activité contestataire. Nous agissons pour le bien commun et en appui avec l'action générale des pouvoirs publics. Alors c'est vrai dans le domaine social, c'est vrai dans le domaine de la santé, c'est vrai dans le domaine de la recherche. Et voilà. Cela veut dire que nous appuyons des institutions existantes. La recherche, on l'a fait en appuyant de grands organismes de recherche tels qu'ils existent en France, comme le CNRS, l'INSERM, l'INRA, les hôpitaux, voilà. Les sélections qui sont faites, elles sont faites, on n'invente pas, n'est-ce pas ? Et nous intervenons à l'appui, mais nous sauvons des situations, nous donnons des impulsions. Des coups d'élan, le terme n'appartient pas aux fondations de l'Institut de France, puisque c'est la fondation Bettencourt qui donne des coups d'élan dans le domaine de la recherche. Mais nous faisons la même chose, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des chercheurs très sélectionnés, se situant au milieu de leur carrière, vers pas encore 40 ans, n'est-ce pas ? Et qui sont en passe de devenir mais qui ne sont pas encore des grands patrons, eh bien, nous leur donnons le moyen de s'affirmer et de poursuivre leur recherche. Alors, est-ce que c'est une des... est-ce qu'on détecte l'avenir en faisant cela ? En tout cas, on rend service à la société, ça c'est sûr. On lui permet d'avancer, de bouger, de sélectionner les meilleurs pour qu'ils obtiennent des résultats plus rapidement et de meilleurs résultats. Ça, l'idée de réussite est certainement présente dans toute l'action de l'Institut. Et puis alors, je crois que l'action dans le domaine de la recherche sociale, elle, a véritablement un caractère assez neuf et assez très intéressant. Les fondations de l'Institut mettent l'accent sur des phénomènes généralement qui sont mal perçus, qui ne sont pas bien analysés, mis en valeur. Je parlais du logement social tout à l'heure. Voilà un domaine où la France a agi et innové de manière brillante au lendemain de la guerre en 1945 et dans les années qui ont suivi, et auquel il n'est plus consacré l'attention suffisante maintenant. Et le problème du logement est un problème considérable. Le problème du lien familial, face à la, au, à la situation sociale, à l'exclusion. N'est-ce pas ? Quel est le lien exactement entre les phénomènes d'exclusion et les phénomènes sociaux et familiaux ? Quelle est, par exemple, la relation que l'on peut établir entre pauvreté et les hommes ? Ou, à l'inverse, les femmes ? Est-ce qu'il y a sans domicile fixe, ce qui est un des phénomènes tout de même importants de notre temps, auquel il n'est pas non plus donné l'importance que l'on pourrait lui donner, même dans les concepts, n'est-ce pas ? Et alors, quelle est la situation des hommes et peut-elle se comparer à celle des femmes ? Et pour quelles raisons ? Et comment y remédier ? Voilà. Il y a beaucoup de problèmes comme ceux-là sont des problèmes assez neufs, et il y en a une quantité, n'est-ce pas, la situation, par exemple, des enfants autistes, la situation aussi, combien dramatique, des adultes handicapés, à la charge de leur famille. Le système de protection sociale laisse cette question ouverte. On va en Belgique, parce qu'en Belgique, il y a des établissements spécialisés. Il y en a très très peu en France. Voilà un des points sur lesquels on peut mettre l'accent. La lumière, on le fait, voilà, sans avoir la responsabilité sociale de changer la réalité, mais en tout cas en éclairant et en dégageant des solutions. L'innovation utile est peut-être ce que nous pouvons apporter de plus précieux, de plus important. Les pouvoirs publics sont très attentifs, évidemment, à cela. C'est pour ça que nous sommes toujours en appui des pouvoirs publics, et puis en espérant que le prolongement se trouve aussi dans...
À la fois vigie et éclaireur.
Oui, voilà, absolument.
Monsieur le chancelier, ça me semble une excellente conclusion, mais peut-être voulez-vous ajouter quelques mots avant que notre émission touche à sa fin.
Non, j'ajouterais, mais ce que je dirais sous la coupole aussi, c'est que tout cela est possible grâce à l'engagement. Je parle de l'engagement de l'Institut de France. C'est un peu abstrait, l'engagement de l'Institut de France. Nous le faisons avec une grande force et une grande volonté. Mais en réalité, cela n'est possible qu'à cause d'une pyramide d'engagement et qui, elle, est extrêmement précieuse et extrêmement fidèle. Et satisfaite, d'ailleurs, dans l'ensemble. Et donc, il faut saluer à la fois les fondateurs, les académiciens qui participent et qui pratiquent l'engagement. Si l'on voulait, ce serait pratiquement tous les académiciens, parce que tous les académiciens sont ouverts, évidemment, à ces préoccupations. Mais, en tout cas, un grand nombre y participent concrètement. Et puis, alors, autour de nous, à la fois, j'ai cité les collaborateurs, je voulais citer toutes les personnes qui appuient cette vocation, assez neuve, en tout cas, et qui... s'enracine, mais non seulement s'enracine, mais en même temps se développe des académies et de l'Institut de France dans le domaine de la philanthropie.
Merci, monsieur le chancelier. Pour conclure à mon tour, je voudrais dire qu'effectivement, demain, c'est une séance solennelle de grande ampleur. J'ai sous les yeux une plaquette qui la présente, mais les auditeurs de Canal Académie pourront écouter la retransmission de cette séance tout au long des jours à venir, et même au-delà pour ceux qui sont abonnés. Et je les invite à le faire, car effectivement, ça permettra de prendre la mesure de l'investissement et de l'engagement de l'Institut de France, des académiciens et des fondateurs, mais aussi des lauréats dans leurs domaines respectifs, pour donc, comme vous l'avez dit, monsieur le chancelier, éclairer l'avenir et surtout contribuer à le construire. Merci de votre fidélité et à bientôt sur les ondes de Canal Académie. Thank you.